Bonjour mes frères et mes sœurs. Vous sentez-vous proche de Dieu? Vous direz parfois oui, parfois non. Et pourquoi? Que faites-vous pour vous rapprocher de Dieu? Comment vous y prenez-vous? Êtes-vous vraiment proche de Dieu en tout temps? Ce sont des questions que l'on pose et souvent les gens répondent en disant « Oh oui, parce que je prie souvent. » Est-ce vraiment tout ce dont vous avez besoin de faire pour être proche de Dieu? D'autres diront « Mais j'étudie la Bible chaque jour, une demi-heure, une heure, trois heures. » Bon, c'est très bien, mais est-ce vraiment la condition nécessaire pour être proche de Dieu? Autrement dit, que faites-vous pour être vraiment proche de Dieu? Ou plus encore, comment vous rapprochez-vous de Dieu? Nous avons tous, de temps en temps, des hauts et des bas, c'est normal. Mais parfois, nous sommes chrétiens des lèvres, oui, et non pas du cœur. Autrement dit, être chrétien parce qu'on prie, être chrétien parce qu'on étudie la Bible, c'est tout ce que Dieu demande? Je ne pense pas. Il faut avoir une attitude différente. Autrement dit, pour être vraiment chrétien, pour vous rapprocher de Dieu chaque jour, c'est pas facile, d'accord, mais quand même, pour vous rapprocher de Dieu, vous devez avoir une attitude chrétienne. C'est ça qui compte. Nous avons tous, je répète, des hauts et des bas. Nous avons tous des problèmes parfois insolubles, d'accord, mais nous devons avoir toujours de l'attitude que Dieu veut que nous ayons. Cette attitude est une attitude de prière, d'étudier la Bible, d'aimer son prochain. Laissez-moi expliquer tout cela d'une autre façon. Regardez autour de vous. Quelle est la première question que vous vous posez? Qui a créé l'univers entier? Qui a fait cette beauté dans la nature? Regardez les fleurs, les champs, les montagnes. Qui a créé tout cela? La première question que vous posez, vous dites, où est Dieu? S'il y a un Dieu, comment Dieu est-il? Ce sont des questions que nous ne pouvons pas comprendre, car, je dirais, ce qui est spirituel dépasse notre compréhension. Je dirais que la première chose que vous devez faire, c'est vous dire, qui est Dieu? Comment est-il? Qu'est-ce qui est fait dans notre vie? S'intéresse-t-il vraiment à nous tous? Si vous comprenez Dieu, vous comprendrez sa majesté autour de vous. Si vous comprenez Dieu, vous le verrez partout, de par le monde. Vous le verrez même dans votre attitude parfois, car vous aurez en quelque sorte des remords en disant « Non, ne fais pas cela ». Mais continuons. Une chose est vraie. Si vous voulez vous rapprocher de Dieu, c'est que la porte est toujours ouverte. Aucune porte ne sera fermée devant vous si vous voulez vous rapprocher de Dieu. S'il y a des portes qui seront fermées, mais ce seront des portes que vous fermerez, pas Dieu. Une chose est certaine dans la Bible, à travers la Bible, vous verrez une instruction, un commandement très simple. Par exemple, laissez-moi citer Deutéronome, chapitre 4, verset 29. Dieu a dit, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu le trouveras. Je répète, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, vous le trouverez. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome, chapitre 4, verset 29, et partout ailleurs dans la Bible. C'est ce que, voyez-vous, nos ancêtres ont reçu en tant qu'instruction de la part de Dieu. Ils étaient, eux, en captivité. Ils cherchaient à être libérés. Ils ont crié à Dieu. Dieu a répondu parce que Dieu voulait les faire sortir d'Égypte. L'Égypte, ce sont les ténèbres. L'Égypte, c'est tout ce qui a mal ou mauvais de par le monde. Donc, eux, ils sont sortis d'Égypte. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? De même aujourd'hui, nous qui sommes appelés, qui avons reçu le Saint-Esprit, et qui sommes membres de l'Église de Dieu, pour ainsi dire, nous sommes aussi sortis de l'Égypte. Nous sommes sortis de l'Égypte spirituelle. Autrement dit, c'est le même appel, c'est la même sortie, et nous avons devant nous le même défi. Mais voyez-vous, une chose est certaine, nos ancêtres, quand ils sont sortis d'Égypte, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'Égypte avec eux. L'Égypte avec ce paganisme, avec ses mauvaises traditions, l'Égypte avec ses péchés. Mais ce n'est pas ça que Dieu leur disait. Dieu leur disait, sortez d'Égypte et laissez tout ce qui est mal ou mauvais en Égypte. Malheureusement, ils ont pris ce qui est mal ou mauvais, ce qui est péché avec eux. Et c'est ce qui se passe malheureusement aussi avec certains d'entre nous. Lorsque nous sommes baptisés, lorsque nous avons été immersés dans l'eau et reçus le Saint-Esprit, certains d'entre nous n'ont pas laissé la nature humaine dans l'eau d'immersion. Nous prenons notre nature avec nous. Et ça, c'est malheureusement le cas pour certains d'entre nous, je le répète. Dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2, Dieu a dit à un de ses prophètes, afin qu'il puisse donc instruire les gens qui se tournaient vers lui, il a dit, écoutez-moi, dit-il, l'Éternel est avec vous, regardez-moi ça, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Vous le chercherez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Voilà, on a des conditions. Voilà comment s'approcher de Dieu et comment s'éloigner de Dieu. Et aussi, dans ces versets 4 de Chronique 15, « Mais au sein de leur détresse, ces gens-là se sont retournés à Dieu, ils ont cherché Dieu, ils l'ont trouvé. » Continuons. Je répète, c'est comme nous aujourd'hui. Que faut-il changer dans notre vie pour nous rapprocher de Dieu? Que faut-il changer dans notre vie pour être proche de Dieu? Eh bien, la réponse est simple. Tout ce qui nous sépare de Dieu, le péché certes, mais aussi notre mauvaise attitude, et en même temps nos mauvais sentiments, nous pouvons toujours savoir que Dieu ne nous abandonne pas, à moins que nous-mêmes nous nous détournions de Dieu. Donc, débarrassez-vous, si c'est possible, de vos mauvaises pensées. Débarrassez-vous de vos mauvaises actions. Débarrassez-vous de tout ce qui vous éloigne de Dieu. Et vous le savez fort bien, ne dites pas je ne sais pas quoi. Chaque fois que vous faites quelque chose qui n'est pas juste aux yeux de Dieu, vous qui êtes membre de l'Église de Dieu, vous qui êtes baptisé, vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous savez fort bien que ce que vous faites n'est pas juste aux yeux de Dieu. Dieu est toujours là pour vous entendre. Notez ce que Ésaïe a dit dans Ésaïe 59, chapitre 1 à 2, et je cite, « La main de l'Éternel, regardez-moi cette force, n'est pas trop courte pour sauver. C'est Dieu qui sauve, personne d'autre ne peut nous sauver. » Et Isaïe dit, « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Parfois, nous avons l'oreille dure, mais pas Dieu. Verset 2, Ésaïe 59, « Mais ce sont vos crimes. » Crime signifie péché. Crime signifie ce qui est mal ou mauvais aux yeux de Dieu. Donc, ce sont vos crimes qui mettent une séparation, regardez-moi ça, une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos crimes qui mettent une barrière, qui nous sépare. Ésaïe dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà. Nous parlons ici, je vous rappelle, comment s'approcher de Dieu. Eh bien, il ne faut pas qu'il y ait une barrière entre lui et vous. Nous autres, dans l'Église de Dieu, nous ne péchons pas volontairement. Mais malheureusement, nous péchons assez souvent. Et parfois même, nous commençons à nous dire, à nous convaincre que ce que nous faisons n'est pas un péché. Ça, c'est une tentation qui nous est commune. Nous devons absolument raisonner comme Dieu et non pas comme nous raisonnons nous-mêmes. Dans l'Église de Dieu, si nous sommes baptisés, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous ne devons pas pécher volontairement. Nous devons donc toujours avoir les yeux sur le Christ. Si vous avez les yeux sur le Christ, si vous avez toujours votre attitude, je dirais en harmonie avec les commandements de Dieu, la voix divine, ses commandements, ses lois. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas vraiment craindre l'adversaire. Certes, vous passerez par des épreuves, mais vous serez toujours sûr d'une chose, de l'amour de Dieu, de sa puissance, de son désir de vous aider. Vous aurez une assurance absolue que Dieu vous sera toujours avec vous. C'est ça la différence, je répète, entre les gens du monde qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit et nous autres qui avons le Saint-Esprit. Voyez-vous, Dieu peut tout faire. C'est le Créateur suprême. Nous devons être sans crainte et toujours courageux, toujours savoir que Dieu nous aide. Regardez ce que l'apôtre Paul déclare, lui qui a tellement souffert. Il écrit dans Romains 8, un chapitre magnifique. Je vous ai souvent parlé de Romains 8. Vous savez, Romains 8, je dirais, a tout. Romains 8 déclare pourquoi nous sommes, ce que Dieu attend de nous, et ce qui va se passer, et en même temps nous donne le courage pour aller de l'avant. Notez-le, Romains 8, je prends vers la fin de ce chapitre, Paul écrit, qui accusera les élus de Dieu? Les élus, c'est nous. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, pas du tout. Les élus sont ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc, Paul écrit, c'est Dieu qui justifie. Il dit, oui, dit-il, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est maintenant à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Notez cela, Romains 8, 34. Le Christ intercède pour nous. Voilà le courage dont vous avez besoin. Voilà la force qui vous donne, je dirais, tout l'espoir pour aller de l'avant sans jamais vous détourner de Dieu. Voilà comment vous rapprocher de Dieu. Christ intercède pour nous en toutes occasions. Et Paul dit, verset 35, Romains 8, « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée ?» Voyez-vous, il cite tous les handicaps, si vous voulez. Il dit non, verset 37, « Dans toutes ces choses, dit-il, nous sommes plus que vainqueurs. » Vainqueurs ? Mais comment ? Par celui qui nous a aimés, le Christ. Voilà comment vous rapprocher de Dieu. Et Paul, qui a souffert, je répète, dit au verset 38, Romains 8, « Car j'ai l'assurance. » Regardez voir le mot « assurance ». Non pas seulement « je pense » ou bien « je pense que je crois », non, mais « j'ai l'assurance ». L'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, dit-il, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Autrement dit, il mentionne tout. Rien, dit-il, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Voilà. Écoutez, si vous êtes vraiment chrétien, si vous croyez à la Bible, si vous croyez aux paroles que le Christ a prononcées, alors vous saurez que, certes, nous aurons des hauts et des bas, mais en toute chose, nous devons nous tenir proche de Dieu. Et proche n'est pas seulement suffisant. Nous rapprocher davantage. Plus les événements vont mal, plus nous sommes malheureux, plus nous nous rapprochons de Dieu. Ce n'est pas facile, je sais, car votre nature charnelle est toujours là pour vous faire comprendre ou croire plutôt que non, Dieu ne vous aime pas ou que Dieu vous a abandonné. Vous savez quoi? Nous devons nous contrôler en tout temps. Contrôler nos émotions, contrôler nos sentiments négatifs, contrôler surtout parfois les doutes. Car nous avons tous des doutes lorsque les choses ne vont pas bien, nous avons des doutes. Et parfois nous voyons l'adversaire, l'adversité en ce bon monde et nous nous disons, est-ce que vraiment Dieu s'intéresse à nous? Ou encore, nous voyons les œuvres de Satan, pour ainsi dire, car c'est Satan qui cause la destruction à ce bas monde, et nous nous disons, est-ce qu'il y a vraiment deux puissances à ce bas monde? Est-ce qu'il y a deux dieux? Certainement pas. Notez ce que Paul dit encore dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6, je citerai en partie, Paul dit, je vous exhorte donc, dit-il, moi le prisonnier, car Paul était à ce moment-là prisonnier, à marcher d'une manière digne de la vocation. Vocation, c'est votre appel. Vocation, c'est lorsque le Christ vous a appelé afin que vous compreniez la vérité et que vous fassiez baptiser, que vous receviez le Saint-Esprit et que dès ce moment-là, vous avez donc une intimité avec le Christ. Voilà pourquoi Paul dit, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été accordée. Mais comment? Comment aller plus loin? Et là, voyez-vous la différence. En ce qui concerne le monde, c'est la gloire. En ce qui concerne le monde, ce sont des richesses. En ce qui concerne le monde, c'est le plaisir, tout ce que vous voulez. Paul dit au verset 2, Éphésiens 1, il dit, en toute humilité. Regardez ce mot. Voilà comment nous pouvons nous rapprocher de Dieu en toute humilité et douceur, avec patience. Voilà des conditions absolues. Humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec charité, c'est-à-dire avec amour. Souvent, les épreuves que nous avons, c'est entre nous-mêmes, entre hommes et femmes, ou bien entre amis, et nous nous créons des difficultés, et nous ne supportons pas les uns les autres, pour ainsi dire. Il dit, verset 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. » De l'esprit de quoi? De l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous tient unis, en paix. Voilà, ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des instructions qui nous permettent de voir comment être proche de Dieu et comment nous rapprocher davantage de Dieu chaque jour. Et Paul dit, il y a un seul corps, verset 4, un seul esprit. Aussi, dit-il, vous avez été appelés à une seule espérance. Quelle est cette espérance? C'est l'espérance d'entrer dans le royaume de Dieu lors de la résurrection. Ensuite, Paul précise, verset 5, notez-le, il y a un seul Seigneur, pas deux Seigneurs. Une seule foi, pas des milliers de sectes et confessions. Une seule foi, un seul baptême, pas des baptêmes de toutes sortes. Le baptême est une immersion totale lorsque nous nous repentons de nos péchés et lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême. Donc, il y a un seul baptême. Ensuite, regardez verset 6, c'est très, très clair. Éphésiens 4, verset 6, il y a un seul Dieu, pas deux, et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous, et en tous. Alors, je répète, pourquoi toutes ces souffrances? Si Dieu est bon, et Dieu est bon, si Dieu est amour, et Dieu est amour, s'il y a un seul Dieu, pourquoi ces souffrances? Parce qu'il y a un autre Dieu, avec un petit dé, qui n'a aucun pouvoir, aucune puissance, sauf le pouvoir ou la puissance que le vrai Dieu lui accorde. Il s'agit de ce que nous appelons Satan le diable. Eh bien, Satan n'était pas toujours Satan. Satan était au début, avant de la création des êtres humains, un archange. À ce moment-là, la terre était remplie d'anges, peuplée d'anges. Ce sont les anges qui occupaient vraiment cette terre, cette planète, si vous voulez. Et Lucifer était au-dessus d'eux, était en charge de cette population angélique. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec les êtres humains. Bien que Lucifer fût un archange, il n'a pas vraiment vécu avec l'humilité dans son cœur. Il voulait la gloire comme la gloire que les hommes cherchent aujourd'hui. Il voulait être grand, il voulait s'approcher de Dieu, non pas seulement pour l'aider, mais être à la place de Dieu. Il voulait occuper le trône divin. Voilà, je dirais, la gloire de Satan. Voilà ses idées. Voilà son souhait. Il a voulu donc se mettre à la place de Dieu. Dès ce moment-là, vous pouvez fort bien comprendre ce qui se passe. Il a succombé à ses ambitions, il a perdu tout, et il est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui Satan le diable. Autrement dit, il a été propre victime de sa gloire, de sa propre gloire. Donc, c'est ce Dieu dont je parle lorsque je parle le Dieu de ce siècle. Du reste, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, je cite, il dit, « Pour les incrédules, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit ou après le baptême par immersion, il dit, « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, voilà, Satan le diable, a aveuglé l'intelligence. Alors, dit-il, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire du Christ. » D'une part, vous avez la splendeur de l'Évangile du Christ, la puissance divine, Dieu de Christ, la gloire à venir. D'autre part, vous avez Satan le diable, le mensonge, la gloire, je dirais, futile. Les choses qui sont sur cette terre et qui ne durent pas longtemps. Voici donc le choix que nous avons entre les deux. Paul écrit, afin qu'ils ne vissent pas, 2 Corinthiens 4, 4, afin qu'ils ne vissent pas la splendeur de l'Évangile, de la gloire, qui est l'image de Dieu. Je répète, il n'y a pas deux puissances en ce bon monde. Dans ce sens que l'une est bonne, l'autre est mauvaise, non. Il n'y a qu'une seule bonne puissance, c'est Dieu le Père. Satan a reçu un certain pouvoir, une puissance si vous voulez, et Satan aveugle l'esprit des gens, Satan voulait confondre les gens, Satan ne veut pas que nous arrivions, nous, à être membres de la famille divine. C'est ça la différence, voyez-vous. Nous, des êtres humains, nous pourrons un jour être membres de la famille divine. Et Satan voudrait absolument empêcher cela. Voilà pourquoi Satan est le dieu de ce siècle. Et je répète, tout ce qu'il fait, c'est avec la permission et la connaissance de l'éternel Dieu. Nous n'avons pas besoin, nous, de succomber à ses astuces. Et c'est ça qui compte. Il ne peut absolument rien faire, Satan le diable, si vous ne le lui permettez pas. Certainement, Dieu ne va pas faire ce que vous devez faire vous-même. Vous devez lutter contre Satan. Vous devez vous abriter sous la puissance divine, sous les ailes du Christ. Voilà comment vous rapprocher de Dieu. Vous savez, c'est intéressant de voir comment Satan agit, même auprès des gens qui sont convertis. Autrement dit, si je suis proche de Dieu, si j'ai reçu le Saint-Esprit, si je crois en Dieu, si je crois à tout ce que la Bible dit, pourquoi devrais-je craindre Satan? La réponse est simple. Je n'ai pas besoin de craindre Satan. Jamais. Je ne dois jamais me soumettre à ses désirs charnels. Car Satan inspire en nous des désirs charnels. Je dois toujours avoir les yeux sur le Christ, sur sa puissance, savoir qu'en toute chose, Dieu, le Christ, sont avec nous. Mais alors direz-vous, pourquoi? Même dans l'Église, il y a des gens qui ont une mauvaise attitude. Même dans l'Église, il y a des gens qui se comportent comme les païens, entre guillemets, du monde. La réponse est simple, parce que Satan peut vous séduire, vous qui êtes convertis. Satan peut même me séduire, moi, si je le lui laisse. Vous savez comment? Eh bien, en mettant dans mon esprit, dans mes sentiments, des doutes, des soupçons, des mauvaises pensées à l'égard des autres personnes. Je peux faire part à des rumeurs ou accuser. L'accusation, c'est l'outil principal dont Satan se sert. Accuser. Vous accusez quelqu'un, chaque fois que vous accusez quelqu'un, Faites attention parce que c'est inspiré par Satan le diable. Ne blâmez personne, quelles que soient les circonstances. Ayez les yeux sur le Christ. Car Satan, je répète, a comme instrument principal l'accusation. Notez-le. Apocalypse, chapitre 12, versets 9 à 10. Ici, la question de Satan, le grand dragon, le serpent ancien dont je vous ai parlé, appelé le diable, celui qui séduit toute la terre. Voilà la cause principale de cette confusion en ce moment. Monde. Ce monde est confus, ce monde a été séduit, parce que Satan tâche de déranger l'esprit des gens. Chacun dit, voilà ce que je pense. Chacun crée en son fort intérieur une image de Dieu. Si vous cherchez Dieu, cherchez-le dans la Bible. Vous verrez l'image de Dieu. Vous verrez le caractère divin. Vous verrez ce que c'est que l'amour de Dieu. Mais Satan veut confondre dans votre esprit toutes ces idées. Il veut que vous soyez séduits. Et voilà pourquoi même l'apôtre Jean dit, Satan qui séduit toute la terre, il a été précipité, d'accord, mais il a encore une puissance parce que Dieu a permis à Satan d'être le roi, pour ainsi dire, sur cette terre jusqu'à ce que le Christ revienne. Verset 10, Apocalypse 12. Il a été précipité. Qui ? L'accusateur, Satan, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voilà le rôle principal que Satan joue aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons même dans l'Église des difficultés. Et nous avons certainement des choses pareilles dans le monde. Parce que Satan, je répète, est encore le Dieu de ce siècle. Nous devons nous méfier, mais jamais le craindre. Jamais avoir peur de lui, car si nous sommes proches de Dieu, personne ne peut vraiment nous faire du tort. Les œuvres de Satan en ce bas monde, c'est néant, c'est rien. Notez-le, psaume 115, versets 1 à 8. Pourquoi les nations, disent-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. En ce qui concerne le monde, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Voilà le Dieu de ce monde. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche, les idoles de ce monde, et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Verset 6, psaume 115. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Des mains ne touchent point. Ils leur ressemblent, dit l'apôtre Jacques, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles, en ces idoles. Autrement dit, ici, dans ce chapitre-là, Dieu nous montre la différence entre lui, la puissance éternelle, et Satan le diable et ses œuvres qu'il fait en ce bon monde. Il faut reconnaître que Satan est puissant. Certes, parce que c'est un archange. Il a certains pouvoirs, mais je le répète et je répéterai aussi souvent que nous abritons sous les ailes du Christ, Satan ne peut rien faire. Vous direz, mais comment vraiment l'arrêter? Comment vraiment l'empêcher? L'apôtre Pierre vous répond dans 1 Pierre, chapitre 5. Versets 8 à 9, et je cite, « Soyez sobres. » Voyez-vous, là, un petit mot, mais ça veut tout dire. « Sobre », c'est être raisonnable, être modéré, avoir une attitude sincère et honnête devant Dieu. Ne pas s'enivrer, même physiquement parlant, mais être sobre. Ensuite, la deuxième recommandation, « Veillez ». Mes frères et mes sœurs, nous devons veiller. Nous devons avoir les yeux ouverts, voir ce qui se passe de par le monde. Satan a séduit la terre. Satan a séduit les hommes politiques de ce monde. Nous devons veiller, surtout à l'heure actuelle, car la fin est proche. Le retour du Christ est très proche. Veillez et priez. Surveillez ce qui se passe. Ayez les yeux ouverts. Car Satan, si vous avez les yeux ouverts, ne peut pas vous séduire. Voilà pourquoi Pierre dit, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Un lion rugissant. Vous savez, cela vraiment veut dire un lion, c'est toujours dangereux, mais un lion rugissant. Il est prêt à dévorer. C'est ce que Pierre dit. C'est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà pourquoi Satan a fait tellement de dégâts à ce bon monde. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi au sein de l'Église. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi en ce qui vous concerne vous, ou en ce qui me concerne moi. Le secret, je répète, pour vous protéger des astuces de Satan, c'est toujours le même. Vous rapprochez de Dieu. Restez proche de lui. Ne vous découragez jamais. Non, ne vous découragez jamais. Ne craignez pas Satan. Je répète, Dieu peut faire toutes choses. Nous devons fuir le péché, comme Esaïe a dit, comme la Bible dit, partout dans ses écrits, car les promesses de Dieu vont s'accomplir. Dieu a promis à chacun de nous que nous tournons vers lui sa protection. Dieu nous a confié la Bible afin que nous puissions l'étudier et connaître comment être sur la bonne, sur le bon chemin, sur la bonne voie en tout temps. Jésus a dit, et c'est une chose intéressante, il dit, ne murmurez pas entre vous. Voilà comment Satan peut encore nous séduire. Murmurer, se plaindre, accuser. Mais pourquoi est-ce que Dieu vraiment nous a appelés? Pourquoi vous? Pourquoi moi? Qu'avez-vous de plus que les autres de par le monde? La seule chose que je puisse vous dire, c'est que vous, lorsque vous avez entendu l'appel divin, vous avez répondu. Moi, lorsque j'ai entendu l'appel divin, j'ai répondu. Ça n'a pas été toujours facile, non, Dieu le sait. Et pour vous et pour moi. Mais une chose est certaine, si nous tenons bon, et Satan ne veut pas que nous tenions bon, mais si nous tenons bon, Dieu est toujours avec nous, Dieu nous donnera la force de surmonter toutes les épreuves. Est-ce que vous avez vraiment cherché à être dans l'Église de Dieu? Je ne pense pas. Certes, vous avez cherché la vérité à votre façon, parce que tout le monde cherche Dieu. Oh, j'ai entendu, vous savez, des centaines de personnes dans mon ministère, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Ils veulent avoir des renseignements secrets, pour ainsi dire, sur Dieu. Les seuls renseignements que vous aurez, c'est dans la Bible. Ou bien dans la nature autour de vous. Regardez voir comment Dieu agit, comment Dieu vous protège, comment Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Donc nous devons avoir une foi absolue. Je reviens à l'apôtre Pierre. Il dit, soyez sobre, veillez. Verset 9, il dit, résistez-lui à Satan. Avec une foi ferme. Voilà le secret. Si j'ai foi en Dieu, je n'ai pas peur de Satan. Ce sont deux choses contraires, foi et crainte. Donc, résistez lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, voilà encore un autre encouragement, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous êtes malade? Il y a d'autres de par le monde, des frères qui sont malades. Vous avez le cœur triste souvent. Il y a d'autres, des frères de par le monde, qui ont le cœur triste. Vous êtes seul, il y a d'autres de par le monde, des frères qui sont seuls. Et vous n'avez pas vraiment beaucoup de force, beaucoup de talent. Eh bien, il y a de par le monde beaucoup d'autres frères qui sont dans le même cas que vous. Pas beaucoup de talent. Et se demandent pourquoi Dieu les a appelés. Mais je répète, c'est le Christ qui les appelle. C'est le Christ qui les a appelés. Regardez voir ce que le Christ a dit, Jean 15, versets 16 à 17. Ce n'est pas vous, allez voir ça, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc, nous avons cherché Dieu, mais nous n'avons pas choisi le bon Dieu. Le Dieu, le Christ, le Seigneur, notre Seigneur, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, verset 16. Donc, si vous avez cherché Dieu, cherché le Christ, bon, le Christ vous a choisi. Vous a choisi, non pas parce que vous êtes meilleur, non, mais parce que le Christ a un travail pour vous. Le Christ veut que vous puissiez vous servir, préparer le chemin pour son second avènement, afin qu'un jour le monde entier puisse comprendre cette vérité dont je vous parle maintenant, l'évangile du Christ, et que le monde entier puisse être converti. Voilà pourquoi le Christ vous a appelé, vous, malgré vos faiblesses, malgré le peu de connaissances que vous avez. Car la connaissance dont vous avez besoin, ce n'est pas vous qui l'a donnée, c'est le Christ. Voilà pourquoi, si faible que vous soyez, le Christ vous a quand même choisi. Il dit, je répète, Jean 15, verset 16, « C'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, voilà, que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez à Dieu, à mon Père, il vous le donne. » Et qu'est-ce qu'il dit comme commandement? Verset suivant, « Ce que je vous commande, dit-il, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et c'est le cas. Vous savez, l'amour, le mot « amour » a été tellement mal interprété, mal compris. En ce qui concerne le monde, l'amour, c'est sexe. En ce qui concerne le monde, les gens, de par le monde, en effet, l'amour, ce n'est pas ce que la Bible entend comme amour. Lorsque la Bible parle d'amour, il s'agit de quelque chose de tout à fait différent. Il s'agit de faire du bien à ceux qui sont autour de vous, de vivre comme le Christ a vécu, afin d'être utile à quelque chose. Il s'agit de venir en aide à ceux qui ont besoin de vous. Il s'agit de ne pas vous impatienter, de ne pas accuser, de ne pas blâmer, de ne pas dire du mal aux autres, ou des autres plutôt. Autrement dit, voilà l'amour. C'est un sentiment tout à fait différent de ce que le monde appelle comme amour. Mais vous direz, mais direz-vous, comment vraiment avoir ce genre d'amour? Comment vraiment, dans un monde charnel, et c'est un monde charnel, on n'en a pas douté, puis-je avoir une telle attitude? La réponse est toujours la même. Ayez les regards sur le Christ. Le Christ là. Le Christ vous a choisi. Le Christ veut que vous arriviez au but. Alors, ayez les yeux sur le Christ. Vous vous rapprochez de Dieu, du Christ. Comment? Laissez-moi citer à nouveau, cette fois-ci Jean 14. Voilà une phrase, voilà une instruction absolument certaine, très facile et en même temps très difficile. Notez-le. Jean 14, verset 6. Le Christ a dit, je suis le chemin. Voilà. Le chemin, c'est quoi? Le chemin, c'est quelque chose qui vous ramène quelque part. Alors, suivez le Christ. Le chemin qu'il a pris. Étudiez la Bible, voyez comment le Christ s'est comporté en toutes occasions. Suivez ce chemin. Il dit, je suis le chemin. La vérité. Ah, vous cherchez la vérité, alors, ne portez pas attention à ce que vous entendez. Vérifiez dans la Bible la vérité que vous entendez. C'est ainsi que vous pouvez vous rapprocher de Dieu. Le Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Oui, c'est le Christ qui a la vie. C'est le Christ qui nous donne la vie. C'est le Christ qui nous a créés. Donc, si vous le cherchez de par les Écritures, comment le Christ a marché, comment le Christ a vécu sur cette terre, vous saurez. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ensuite, nul ne vient au Père que par moi. Et après cela, Et c'est intéressant, le Christ parle de quelque chose tout à fait, je dirais, étrange pour nous, car tout d'un coup, il parle d'être un bon berger. Le Christ est notre berger. Pourquoi dis-je étrange? Parce que les brebis, d'une façon générale, n'ont pas beaucoup d'intelligence. Nous sommes des brebis. Le Christ nous traite de brebis. Notez-le. Jean 10, verset 7. En vérité, dit-il, je suis la porte des brebis. Tous ceux, dit-il, qui sont venus avant moi sont des voleurs. Je suis la porte, dit-il, verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, il trouvera les pâturages. Comme j'ai dit, les brebis suivent parfois aveuglément le berger. Eh bien, le Christ est notre berger. Nous devons le suivre en toutes occasions. Et Paul dit, les brebis connaissent leur maître, leur berger. Le voleur, dit-il, ne vient que pour dérober. Ça, c'est Satan le diable. Et aussi, ce sont nos sentiments à nous. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Je suis, dit-il, c'est le Christ qui parle, verset 10, notez-le. Je suis, dit-il, venu afin que les brebis, vous, moi, nous tous qui suivons de Christ, que les brebis aient la vie éternelle dans l'abondance. La vie éternelle, c'est moi qui ai ajouté parce que ça, c'est le but final. La Bible dit, aient la vie et qu'elles aient et qu'elles vivent dans l'abondance. Et le Christ termine ce chapitre en disant, je suis le bon berger. Ah, qu'allez-vous encore ça? Pas un berger quelconque, mais le bon berger. Et pourquoi bon? Que signifie ce mot bon dans cette parabole? Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comprenez-vous cela? C'est formidable tout ça, c'est magnifique tout ça. Nous pouvons voir l'amour de Dieu. Et le Christ dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne, dit-il, ma vie pour mes brebis. Voilà l'attitude du Christ. Nous devons donc marcher avec le Christ. Nous devons nous soumettre à ses commandements. Nous devons nous laisser guider par lui, comme un berger guide les brebis. Jamais douter de la bonté de Dieu. De par nous-mêmes, voyez-vous, nous ne pouvons pas faire grand-chose. De par nous-mêmes, nous ne savons pas comment vraiment obéir à Dieu, à moins que nous ayons l'Esprit de Dieu. De par nous-mêmes, nous n'avons aucune force. Même en ce qui concerne la prière, soyons francs, nous ne savons pas comment prier. Je vous ai fait 2 ou 3 sermons à ce sujet. Même les apôtres demandaient au Christ, enseigne-nous à prier. Et le Christ leur a donné un modèle de prière. Mais en plus de cela, regardez comment le Christ vous dit comment vous rapprocher de Dieu. Dans la prière, dit-il, Romains 8, ce magnifique chapitre dans Romains, Romains 8, verset 26, de même, dit-il, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Voyez-vous, il répète. Mais dit-il, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Imaginez-vous, le Christ intercède pour vous par des soupirs inimaginables. Voilà la force, voilà l'amour dont vous avez besoin et que vous avez. Le Christ intercède en faveur des saints. Vous êtes saints si vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Christ intercède pour vous. Et si vous faites ça, si vous vous soumettez à ces commandements ici, le Christ dit par l'apôtre Paul, verset 28, Romains 8, nous savons, dit-il, que toute chose signifie toute chose, même les malheurs, même les difficultés, même les maladie, je dirais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, aiment de cette façon-là, de ceux qui sont appelés, donc reçus le Saint-Esprit, selon son dessein. Voilà la signification de Romains 8, 28. Vous savez, avant que je sois dans l'Église de Dieu, j'aimais ce verset, Romains 8, 28. Je citais « Toutes choses concourent au bien ». Point. Mais la Bible ne met pas un point là. Il y a une condition. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein ». Voilà comment on peut parfois tordre les enseignements bibliques. On peut prendre juste les mots qui nous conviennent et nous pensons être serviteurs de Dieu. Ésaïe a répété à plusieurs reprises dans ses écrits comment nous rapprocher de Dieu. Il dit, par exemple, chapitre 55, versets 6 à 7, « Cherchez l'Éternel, dit-il, pendant qu'il se trouve. » Pourquoi pendant qu'il se trouve? Parce que le moment viendra où nous n'aurons plus la liberté de prêcher l'Évangile, de proclamer l'Évangile. Car Satan, vers la fin des âges, il sera en rage contre ceux qui cherchent vraiment Dieu. Voilà pourquoi Ésaïe dit, pendant qu'il se trouve, indiquez le temps qu'il est encore prêt. Que le méchant abandonne, voilà encore des conditions, sa voix, l'homme d'iniquité, ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous savez, mes frères et mes sœurs, je vous ai fait plusieurs sermons sur ce sujet, le pardon, la miséricorde. Sans la miséricorde, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Si vous ne savez pas pardonner à votre prochain, même à votre ennemi, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. À travers la Bible, tous les prophètes, nous pouvons constater, ont souffert. Tous les prophètes ont passé par des épreuves difficiles, mais tous les prophètes ont tenu le coup par la foi en Christ. Et ils ont montré, certains d'entre eux, par des exemples, d'autres par des écrits. Prenez par exemple Michée. Le prophète Michée, et c'est magnifique, en un seul verset, il résume exactement la voie de s'approcher de Dieu et de se tenir proche de Dieu en toutes occasions. Notez-le, Michée chapitre 6, verset 8. Il dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. » Alors, si je peux savoir ce que l'Éternel demande de moi, je veux savoir ce que c'est. Ésaïe, Michée, en l'occurrence, vous répondent. Michée vous dit, dans un seul verset, je répète, Michée 6, verset 8, c'est que tu pratiques la justice divine, pas la justice humaine. La justice de Dieu, ce sont les commandements. Votre obéissance à ces commandements. Dieu vous dit exactement comment être juste. Donc, pratiquez cette justice, que tu aimes la miséricorde, voilà. La miséricorde, c'est que nous nous pardonnions nous-mêmes et que nous pardonnions aux autres. Pardonnez à votre prochain, même si ce pardon n'est pas mérité, mettons. Car c'est par la miséricorde que nous entrons dans le royaume de Dieu. Le Christ a pardonné à ceux qui lui ont offensé. Le Christ a pardonné à ceux qui lui ont voulu la mort. Le Christ a pardonné à ceux qui l'ont persécuté. Alors, qui êtes-vous, qui suis-je, pour ne pas avoir cette même attitude? Examinez-vous vous-même. Où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes vraiment proche de Dieu? Est-ce que vous cherchez Dieu? Regardez encore sa promesse dans Psaume. Chapitre 145, versets 18 à 19. C'est beau tout ça, voyez-vous. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. C'est une promesse. Vous voulez vous rapprocher de Dieu? La Bible dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec quoi? Sincérité. Pas double cœur. pas par des mensonges, qui aime Dieu avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux, autrement dit, Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent, qui lui obéissent. Il entend leurs cris et il les sauve. Voilà le but. Nous sommes ici, en ce moment, pour être sauvés, pour jouir du salut. Le salut, c'est la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Le Christ est là, il nous montre le chemin, il veut que nous arrivions, et c'est pour cette raison que nous sommes créés. Nous avons été créés pour arriver à ce but. Et Dieu fera tout afin que nous puissions accomplir notre part, afin que nous puissions arriver à ce but. Dès le commencement, je vous ai parlé de nos pères, des Israélites. Les Israélites avaient un Dieu, le Dieu suprême. Ce Dieu suprême leur accordait tout. Et voilà que les Israélites voulaient être comme les autres nations, parce que les autres nations suivaient le chemin charnel. Le Christ leur a donné un commandement qui est toujours valable, et eux, ils n'ont pas obéi à ce commandement. Laissez-moi le citer, ce commandement. Et laissez-moi aussi vous citer la promesse, ou les promesses, si vous voulez, qui accompagnent ce commandement. Notez-le. C'est le même commandement que nos ancêtres ont reçu. Eux, ils n'ont pas obéi. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 16. Deutéronome 30, 15 à 16. Dieu a dit, « Je mets devant vous, dit-il, la vie et le bien, la mort et le mal. » C'est ce que nous voyons autour de nous. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez d'une part la beauté divine, la bonté divine, et aussi les commandements de Dieu, et d'autre part, les destructions de Satan. Nous avons un choix devant nous. Il dit, je te prescris, ici, Dieu donne des détails. Je te prescris, dit-il, aujourd'hui, d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, c'est toujours la même chose qu'il répète, et c'est normal, d'observer ses commandements et ses lois. Voyez-vous, ce n'est pas une répétition vaine, c'est une répétition absolument nécessaire. Ces ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. C'est la même promesse à nous tous aujourd'hui. Ensuite, Dieu dit, verset 19, « J'en prends aujourd'hui, dit-il, à témoin contre vous et le ciel. » J'ai mis devant tout la vie et la mort, il répète, la bénédiction et la malédiction. Ensuite, en tant qu'un père qui nous aime, il dit, choisis la vie. Dieu veut que nous fassions de bons choix. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, regardez voir le monde. La plupart des gens pensent avoir choisi la voie divine alors qu'ils ont choisi la voie charnelle, sous l'influence de Satan. Il dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Voilà encore, ça se répète. Pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Et dit-il, c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Autrement dit, à ce moment-là, c'était une promesse charnel entre guillemets, c'est-à-dire une promesse physique. Cette même promesse s'applique aujourd'hui à nous, et dans la lettre, et dans l'esprit. Les prophètes tous ont souffert. Les prophètes tous ont passé par là. Les prophètes tous ont montré à Dieu qu'ils ont vraiment choisi la vie de la façon dont Dieu parle ici. Prenez par exemple Abraham. Vous savez, Abraham, c'est le seul, ce n'est pas le seul, mais je vous dis Abraham parce qu'il est le père des croyants. Notez-le dans Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. Le chapitre entier d'Hébreux 11 vous donne l'attitude des saints, c'est-à-dire des gens qui sont passés par là. Plus tard, dans le Nouveau Testament, nous avons évidemment l'apôtre Paul, qui lui aussi a énormément souffert. Mais je prends seulement aujourd'hui Abraham. Regardez voir l'attitude d'Abraham. Hébreux 11, chapitre 8. C'est par la foi. C'est toujours question de foi. Nous devons avoir foi en Dieu. Si Dieu dit une chose, sachez que cette chose est juste et c'est bon pour nous tous. Ne cherchez pas des raccourcis. Ne cherchez pas un raccourci qui plairait à votre nature charnelle. Et pourtant, vous avez toujours Satan le diable qui tâchera de vous influencer, de vous faire comprendre ou croire que la voie que vous avez prise, mettons, ce n'est pas vraiment mauvais et que cette voie peut vous conduire au résultat final. Non. Faites comme Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Voilà la foi. La foi, c'est croire en Dieu lorsque Dieu vous dit quelque chose, même si vous ne comprenez pas, même si vous ne savez pas où aller, vous obéissez à Dieu parce que, comme Abraham, il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi, verset 9, Hébreux 11, qu'Abraham est allé s'établir dans la terre promise. C'était une terre étrangère, il ne savait pas ce que c'était. Il a quitté son pays, habitant sous des tentes, autrement dit, une habitation temporaire. Ainsi que Isaac et Jacob, les cohéritiers. Pourquoi? Comment est-ce qu'Abraham a fait cela? Quelle était sa force? Parce que lui, il comprenait l'Évangile. Et oui, il comprenait l'Évangile, c'est-à-dire la puissance du Christ, l'arrivée du Christ, du Messie et la résurrection. Regardez comment verset 10 décrit tout cela. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements. Aujourd'hui, il n'y a pas de cité de par le monde qui ait de solides fondements. Même les gratte-ciels n'est pas solide. Un tremblement de terre les écroule. Une cité de solides fondements, c'est la cité que Dieu a construite. La cité que Dieu établira. C'est-à-dire une cité spirituelle et qui sera donc le fondement même de notre futur, dont la cité dont l'architecte n'est pas un constructeur humain, dont l'architecte c'est l'éternel Dieu. Je paraphrase. Voilà pourquoi nous devons avoir, nous, comme Abraham, les yeux sur le Christ. Ensuite, l'apôtre Paul, dans Hébreux, chapitre 10 plutôt, il nous dit comment nous rapprocher de Dieu. Parce que ça, c'est notre sujet. Comment nous rapprocher de Dieu et rester ainsi proche de lui. Alors, Paul écrit dans Hébreux 10, verset 19, « Ainsi donc, dit-il, puisque nous avons, au moyen du sang de Christ, une libre entrée dans le sanctuaire, dit-il, par la route nouvelle. Il dit, approchons-nous, verset 22. Je saute les versets pour, à cause du temps. Il dit, approchons-nous, dit-il, avec un cœur sincère. Ce mot sincère apparaît plusieurs fois dans la Bible. Il dit, un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié et le corps lavé d'eau pure. Voilà comment nous approcher de Dieu. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à l'amour, aux bonnes œuvres. Verset 25. Voilà un commandement qui vraiment s'applique à nous aujourd'hui d'une manière très forte parce que nous voyons les événements, nous savons que la fin est proche et nous verrons de plus en plus des cités, des villes, des pays même, où l'Évangile ne sera plus prêché. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, nous avions plusieurs églises en France. Nous avions plusieurs églises dans les Antilles. Aujourd'hui, il n'y a que peu d'églises, et en France, et les Antilles. Nous avons perdu pas mal de gens, car Satan les a attaqués. Mais ici, nous pouvons voir un commandement de l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il dit, et c'est un avertissement que je vous donne, à vous qui m'écoutez, n'abandonnons pas nos assemblées. Là où vous avez des frères, nous pourrons nous assembler. Il dit, n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, dit-il, réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est ce que je vous ai dit. Nous savons que le retour du Christ est proche. Mes frères et mes sœurs, bientôt nous perdrons ces libertés que nous avons de nous assembler au nom du Christ. Bientôt, nous n'aurons plus cette liberté, nous n'aurons pas un ministre. Je me rappelle à l'époque, à Paris, lorsque je prêchais, je disais, écoutez, la Bible dit qu'un jour, vous n'aurez pas de ministre. Et c'est arrivé. Et le jour viendra où nous n'aurons pas de ministre, peut-être en France ou aux États-Unis, je ne sais pas. Autrement dit, Satan va attaquer, toujours de par la permission divine, nous devons nous tenir bons. Je répète, Paul dit, n'abandonnez pas vos assemblées, d'autant plus utile que vous voyez s'approcher le jour. En fin de compte, et ça m'a terminé peut-être avec une instruction que Jacques était le frère du Christ, nous donne. Jacques, chapitre 4, versets 7 à 8. Ce sont des versets simples, je n'ai pas besoin d'expliquer, parce qu'il s'explique elle-même. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Je me soumets à Dieu dans ce que je fais, c'est sa volonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Je résiste au diable en repoussant ses astuces, ses pensées qui sont mauvaises. Tout ce qui est contre la nature divine, je le repousse. Ce faisant, je me rapproche de Dieu et je résiste au diable. Si vous faites, dit-il, si vous résistez au diable, dit-il, verset 7, Jacques 4, le diable fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, voilà mon sujet de ce sermon. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, dit-il, pécheurs, purifiez vos cœurs et vous qui êtes hommes, résolu. Alors, mes frères et mes sœurs, où en êtes-vous? En ce monde, aujourd'hui, nous avons des défis partout. En famille, dans nos nations, en société, dans le travail. Lorsque nous voulons obéir à Dieu, nous avons des difficultés, car Satan voudrait absolument nous empêcher de vivre en paix. Nous voyons autour de nous des guerres et des bruits de guerre. Nous avons devant nous une perspective malheureuse en ce qui concerne les finances. Nous voyons la sécheresse d'une part, les inondations d'autre part. Nous voyons, autrement dit, des dégâts terribles. Parce que Dieu a permis à Satan de séduire les gens. Parce que Dieu veut aussi nous montrer que si nous nous détournions de lui, tous ces malheurs qu'il a prédit dans la Bible, arriveront. Alors si nous, en tant que chrétiens, nous pouvons voir vraiment que Dieu nous aime et que le Christ est venu nous donner cette force, nous donner cette volonté, nous donner la puissance même de le suivre, alors nous savons que rien en ce bas monde, comme l'apôtre Paul l'a dit, ne peut nous éloigner de lui. Nous devons nous rapprocher de Dieu et non pas nous éloigner de lui. Nous avons pour devoir, en toutes circonstances, savoir que Dieu est avec nous. Nous avons pour devoir, en toutes circonstances, être absolument convaincus que Dieu nous aime. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, l'avenir est bon. L'avenir est bon pour tous ceux qui croient en Dieu. L'avenir est magnifique pour tous ceux qui sont membres de la famille divine aujourd'hui, membres physiques, et qui seront un jour membres spirituels. Voilà pourquoi je termine avec la promesse que l'apôtre Paul fait dans Romains chapitre 8, verset 18. Une promesse fantastique. Romains 8, 18, Paul écrit, j'estime que les souffrances du temps présent, et cela s'applique aujourd'hui à nous tous, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées, gardez voir cette puissance, à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Y croyez-vous, mes frères et mes sœurs? Si c'est le cas, restez toujours proche de Dieu, marchez avec lui, main dans la main.